Je vous ai tout dit.
Non, papa.
Maintenant, attends.
Non.
Je suis très, très fatigué.
Non.
Faut me laisser répondre.
Tu m'as raconté depuis votre arrivée en France, le retour, le travail, la coopérative. Mais ça reste encore.
Quoi encore?
Après la grève des piments, qu'est-ce qui s'est passé?
Aïe, mon enfant. La grève des piments, là, je vous promets, la prochaine fois...
Non, papa, s'il te plaît, juste quelques minutes.
Ah, d'accord. Je vais le faire.
Ouais.
Mais à une condition,
laquelle?
Mon enfant. Que tu me fasses du thé.
Promis.
R22 Tout le monde. Antenne, la fabrique fantôme.
Oui, bonjour, bonsoir, pardon. Je vais vous parler en soninké. Bonsoir. Bon, voilà, et merci beaucoup d'être venus, si nombreux, et puis pour découvrir cette histoire. Voilà, et puis avant de voir le film, le début de notre histoire, nous avons écrit un petit texte pour un peu raconter la raison pour laquelle nous avons pris conscience que l'immigration n'est pas une solution. Mais c'est une question que nous avons posée, hein, c'était en 1972, donc les préambules, on appelle l'immigration, quelle solution? Fils de paysans, nous avons connu les durs labeurs de la terre que nous avons quittés pour améliorer nos conditions de vie. Mais étant illettrés ou instruction modeste, nous n'avons pas trouvé sur place les moyens à la mesure de nos conditions, flattés par les réussites fulgurantes de quelques camarades rentrés au village après un séjour en France, costumes, radio, électronique, etc. De ces faits, tentés par l'immigration, nous nous sommes donc retrouvés en France, comme tant d'autres. Arrivés dans ces pays de rêve, qu'avons-nous trouvé? Un travail, certes, mais un travail dur, pénible et souvent dangereux. Un logement, certes, mais des conditions d'hygiène regrettables, un dépaysement total. Après plusieurs années de travail, dans ces conditions, vie difficile, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas rester pris dans ces cercles infernaux. De continuer aller-retour sans projet de retour définitif au pays. À l'issue, issu de milieux agricoles, il nous a semblé tout naturel de retourner à la terre. Immigrer, il nous semble positif, indispensable d'exploiter, de développer des connaissances des uns et des autres acquises durant nos années d'immigration, d'initiative, d'un retour en groupe. Pour nous, il n'était pas question de retourner individuellement, parce que nous avons vu que retourner individuellement ne réussira pas. De réunion en réunion, des militants de l'ACTAF. L'ACTAF, ça veut dire Association culturelle des travailleurs africains en France, que nous avons fondée en 1971, et avoir exposé et discuter leur projet avec leurs frères de foyer, ont mis sur pied un groupe de 14 personnes, qui s'est décidé à suivre une formation agricole et retourner ensemble aussitôt en Afrique. Dans les foyers, les questions les plus souvent avancées sont: qu'allez-vous organiser votre formation avant de votre retour? Dans quel pays allez-vous et pourquoi? Alors, toutes ces questions-là, ils sont dans les livres que nous avons écrits. ici, nous connaissons pas un pays. Le mot pays, c'est un mot qui était exporté. Nous ne connaissons pas les pays. Ce sont des pays qui sont les régions qui sont devenues pays. Alors, nous avons écrit les trois pays qui sont frappés par l'immigration, par les départs massifs comme nous, Mali, Sénégal, Mauritanie et la Guinée. Alors, nous avons organisé différentes réunions avec certaines organisations pour justement faciliter notre retour au niveau matériel et l'installation dans les pays qui nous facilitera notre arrivée. Alors, pour ne pas être trop long, c'est la raison pour laquelle nous avons, bon, en tout cas, Mali nous a répondu vite et favorablement. Pour une simple raison, qu'à cette époque-là, les régimes de l'indépendance, et puis le Mali est retourné dans la tradition africaine qui fait que la terre n'appartient à personne, appartient à celui qui la travaille. Donc, en 1960, à l'indépendance, et Mali est retourné justement, comme je disais, à la tradition. Au niveau loi foncière au Mali, pour éviter la spéculation, malheureusement, parfois, il y a des abus, mais ceux qui sont au courant, évidemment, ceux qui ne sont pas au courant, on peut se faire avoir facilement. On achète la terre à quelqu'un, mais si l'État a besoin, vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas de titre foncier. Donc, quand on a écrit les trois pays, je disais que Mali nous a répondu vite et favorablement, mais Senghor aussi, c'était le temps de Senghor, mais il n'avait pas compris notre projet parce que lui, il avait compris que on en a marre d'être en France. On voulait retourner en Afrique. Et on voulait quitter la France. Il nous a proposé une entreprise de maraîchage des Hollandais à la région de Rofis, que ceux qui connaissent un peu le Sénégal, au Mali, au Sénégal là-bas, et qui font des maraîchages, mais intensifs. Hein. Le maraîchage, donc, tous les petits paysans sont devenus ouvriers agricoles. Donc, il nous a proposé d'aller travailler là-bas, quoi. Bon, donc, on a dit que ce n'était pas du tout notre projet. Mais donc, comme Mali nous a répondu vite et d'accord, on a formé une délégation, trois personnes qui est allées voir ce qu'on appelle chez nous les gouverneurs, mais en fait, c'est les préfets, en fait, les préfets qui étaient dans la région. Lui, il avait tout de suite compris notre projet parce que dans sa région, la région de l'immigration africaine ici, principalement, on vient de fleuve Sénégal, sur la vallée du fleuve Sénégal. C'est les Maliens, les Sénégalais, les Mauritaniens. On vient de ces coins-là. C'est les premiers qui sont venus ici. Moi, je suis venu ici en 65 et on avait trouvé des grands frères qui étaient là vers les années 57, 58, 59. Donc, bon, voilà. Quand le gouverneur, il s'est rendu compte que tous les jeunes de sa région partent. Et donc, il a dit au président de l'époque, c'est un projet qui m'intéresse en ma région. Peut-être que ça va donner un exemple. Et pour une simple raison, comme ça a été bien dit dans ces livres-là, avant notre arrivée, il n'y avait aucune culture maraîchère. Donc, et pourtant, nous avons des fleuves. Donc, il y a les fleuves qui sont là, mais personne ne l'exploitait. Les gens attendaient seulement la pluie. Et quand la pluie ne tombe pas, et puis ça pose énormément de problèmes. Donc, la sécheresse de 73, et qui a aussi provoqué notre prise de conscience par rapport justement à la nécessité de faire quelque chose qui aura vraiment l'impact, qui donnera l'exemple dans la région pour qu'on n'attende plus la pluie. Et à l'époque, on n'avait même pas de barrage encore en projet. Mais notre grande surprise, hein, une heureuse surprise, en 1985, les quatre pays qui est vraiment ces fleuves-là, Mali, Sénégal, Mauritanie et la Guinée, ils ont fait un projet, ils ont fait des barrages. Maintenant, il y a des retenues d'eau. Nous, on n'avait même pas cette possibilité, enfin, cette chance-là. On a choisi l'endroit simplement là où, et même quand il ne pleut pas, il y a un peu d'eau quoi, pour qu'on puisse faire le maraîchage. Mais maintenant, il y a de l'eau tout le temps, tout le temps. Donc, pour être un peu court, là, une fois que le gouvernement nous a accordé, on a choisi le lieu où la région de Kaï, ceux qui connaissent un peu, on n'est pas loin de la Mauritanie, on n'est pas loin du Mali, on n'est pas loin de la, comment, du Sénégal. Alors donc là, c'est un endroit, vraiment c'est un espèce de carrefour quoi. On n'est pas loin de Kaï, pour ceux qui connaissent, on est à 15 km de Kaï. Et pour une simple raison, on s'est dit, on a un peu vu lui, on a dit si jamais qu'on produit assez, et notre production, au moins il y aura des gens qui peuvent venir et acheter sur place. Maintenant, eh bien, quand on était, m'a fait, l'État nous a donné 60 hectares. Il nous a mis 60 hectares à notre disposition. À notre disposition. Comme je disais, mais avec un statut particulier. Nous avons 60 hectares, nous avons défriché, déchuché, on a fait tout à la main. Ces photos-là, elles sont dans ces livres-là. On a fait tout à la main, sans aucune intervention matérielle, pour une simple raison, parce qu'on voulait donner un exemple. On voulait donner un exemple. En plus, en venant de France, et pour les gens des ex-colonisés, là, les ex-colonies, et quand on vient de France, eh bien, on n'est plus paysan. Et nous, les travaux manuels, en tout cas. D'ailleurs, la raison pour laquelle, ça, c'est, je ne vais pas rentrer trop loin, parce que vous verrez tout ça dans ce livre-là. Quand on est arrivé, eh bien, bien que le gouvernement nous a accordé 60 hectares, mais il y avait une méfiance qui s'est installée parce que, étant donné, ils nous considéraient, ils disaient, mais attendez, ils venaient nous voir. Bon, on était habillés, comme travailleurs, tout ça. Mais le fait que moi, je ne parle pas Bambara, et parmi nous, on était 14, et parmi nous, personne ne parle Bambara, donc on s'exprimait en français. Là, c'est quelque chose qui les a beaucoup, beaucoup étonnés. Quelqu'un qui parle français comme ça, qui quitte la France, qui vient faire l'agriculture, c'est bizarre. Donc ça a provoqué une méfiance politique et policière. Donc il y avait ça, moi je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tout cas il y avait 60 policiers inspecteurs à notre disposition qui venaient, qui nous posaient mais tout genre de questions. Mais heureusement pour nous, de toute façon, il n'était pas question pour nous. Nous, on est retournés pour des raisons idéologiques, pour faire quelque chose de sur place. Donc, la politique, bien que les régimes militaires ne nous plaît pas, mais notre but, ce n'était pas du tout faire la révolution. Non, on voulait faire la révolution à notre manière. Donc, on est arrivé, on a commencé les travaux, tout à la main, ils venaient nous voir, et on était 14. Eh bien, maintenant, le village, il y a plus de 600 personnes qui habitent. Alors, je précise que parmi les 14, il y a des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens et des Voltaïques, Burkina Faso actuel. Donc, nous, notre groupe, j'ai dit nous, ici, comme je disais à certains là, nous, les frontières là, ce n'est pas notre truc. Donc, les frontières ont été faites pour une simple raison. Que la France, malheureusement, nous tous, on est en train de payer ça, parce que l'immigration forte vers l'Europe, vers la France, c'est à cause de ces frontières-là. Parce que si on était tous ensemble, comme avant, comme le temps de la off, si j'ai des problèmes ici, je pouvais y aller là. Hein? Et les derniers pays qu'on les a séparés, c'est le Mali et le Sénégal. Ils étaient ensemble, mais on a appelé Senghor, on a fait la pression. La France voulait absolument couper des régions qui deviennent pays. Pour une simple raison, ils ont pensé ça comme ça, parce que c'est une pensée courte vue. Ils disent comme ça, ils seront dépendants de nous. Eh bien, bien sûr, on est maintenant dépendants de la France. La France, tout le monde est fatigué, mais on est dépendants. Voilà, ça c'est vraiment la raison fondamentale de nos frontières. C'est pourquoi nous, on n'avait pas tenu compte du tout des frontières. Et puis, on a pris conscience sur un fait. Et pour donner un exemple de la région, eh bien, actuellement, eh bien, ça a marché. Il y a des périmètres irrigués partout. Il y en a partout. Et malheureusement, les périmètres irrigués, la plupart des périmètres, nous avons créé une union régionale des coopératives de la région des Kaï. Eh bien, la plupart des coopératives sont tenues par les femmes. Voilà. Comme partout, en tout cas en Afrique, les femmes, parce que ce n'est pas possible, quoi. Et puis, en tout cas, pour le moment, et ça fonctionne très bien. Quand on est arrivé dans la région, il n'y avait pas de bananes. Toutes les bananes que certains, ceux qui ont des moyens, consommaient, ils venaient de la Côte d'Ivoire. Il y avait une entreprise française qui faisait ça là-bas. Nous, quand on a eu l'idée de le faire, ils nous ont envoyé une délégation pour venir nous voir, pour nous dissuader, de dire non, c'est pas la peine, la région des cas est trop chaude, c'est pas la peine de vous fatiguer, vous allez vous fatiguer pour rien. Bon, je vous le dis, et les films que vous allez voir, vous allez voir. Et puis, on a, il y a une fiction justement par rapport à ces problèmes-là. On a dit que nous, on va l'essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, eh bien, pour le moment, actuellement, nous sommes les premiers producteurs de bananes de la région. Voilà, pour une simple raison. Parce qu'en plus, il y avait de l'eau. Il y a de l'eau, il y a tout. Et puis, mais ils sont venus nous en dissuader de dire que, pour une simple raison, pour que la banane que l'entreprise française fait en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, que les gens continuent à acheter ça, quoi. Bon, mais malheureusement pour eux, maintenant, dans la région, tout le monde fait des bananes. Voilà. Voilà, c'est pour ne pas être encore une fois long. Je suis déjà long. Hein. Bon, et on va regarder les films. Et puis maintenant, après maintenant, il y aura des questions. Bon, Raphaël, si tu as quelque chose à ajouter.
Mais...
Après, je suis là pour répondre à toutes vos questions.
Merci
beaucoup.
Alors, avant de... Vas-y.
C'était Bouba Touré. Bon, nous, on est un peu habitués. Ça fait longtemps qu'on fait venir Bouba ici. Et il va tous nous mettre au chômage à force, quoi. Mais voilà, ça fait quelques années déjà qu'on accueille Bouba et qu'on suit le travail qu'il fait avec Raphaël Griset. Donc, merci encore d'être ici ce soir. Pour dire aussi que ce livre conclut voilà, tout un réseau de relations entre la France et l'Afrique de l'Ouest, entre des histoires de lutte ici et des histoires agricoles là-bas, et qu'on a eu la chance, le privilège même d'être en lien avec cette histoire-là à plusieurs reprises, avec le travail de Raphaël Griset, qui est cinéaste et artiste, et avec Bouba Touré, qui représente la coopérative Somankidigoura. À pas mal d'étapes, en tout cas, de ce projet-là, on a eu l'occasion de se retrouver aussi ici. Aujourd'hui, il y a donc le livre qui sort, qui rassemble à la fois toute l'histoire de la coopérative, mais aussi tout un ensemble de regards, en fait, autour de l'histoire de la coopérative, soit à la fois des gens qui vont s'intéresser à l'origine à la situation des travailleurs immigrés en France et aux luttes dans les foyers jusqu'aux sans-papiers aujourd'hui, et à la fois des gens qui vont réfléchir à des politiques agricoles de la région. Donc en plus de l'histoire qui a été reconstituée en dialogue entre Raphaël et Bouba, il y a tout un ensemble de regards qui accompagnent ce livre, et il y a encore des œuvres et des projets qui sont à venir. Aujourd'hui, on va voir un film, il y en a un autre qui va venir bientôt, pour dire aussi que peut-être le cœur aussi de cette histoire-là, parce que Bouba, en plus de fondateur de la coopérative, est aussi photographe et documentaliste des luttes ici, il a été projectionniste, je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait comme métier, mais en tout cas, le livre traverse aussi cette double réalité qui nous rassemble en fait ce soir entre agriculture et culture, entre des manières de faire des images, de cultiver les images et de cultiver les sols, et qui sont pour nous en fait voilà, assez précieuses, puisque la manière dont cette espèce de travail un peu délicat et ce rapport au sol et aux pratiques vivrières, nous on essaie de le conduire à travers les pratiques de la culture ici en France, avec ce lieu, avec toutes ces différentes histoires, travailler à échelle et avec un soin pour l'endroit où on se trouve. Et donc voilà, le livre retrace aussi ces doubles choses, toute une histoire de l'image, une histoire des films aussi qui ont été produits, parce que Bouba était acteur aussi. Et voilà, donc encore, je me disais, mais j'ai oublié encore. Voilà, il jouait en jouant même son propre rôle. Mais voilà, en tout cas, pour dire que cette histoire-là, elle accompagne aussi toute une cinématographie. Avec Sidney Sorona, avec Medondo, qui est décédé cette année, avec en tout cas tout un ensemble de figures de cinéastes qui sont aussi les compagnons de toute cette histoire. Raphaël, je te passe juste la parole pour nous dire un peu plus à la fois sur le livre, tes films et le film qu'on va voir ensuite.
Ouais, merci, merci Olivier.
Vous me posez la question, j'ai un micro, le micro est pour vous.
Oui, non, en fait, moi, je voulais revenir peut-être sur ce qui a mené à ce livre spécifiquement, dans toute cette collaboration avec Bouba qu'on a depuis 10 ans. En fait, moi, j'ai commencé il y a 10 ans à faire un film documentaire. J'ai commencé à tourner, je crois, en 2000. J'ai commencé à filmer. Chez toi, je pense en 2006, en fait, avec le désir de te filmer de faire un portrait d'un producteur d'images, de quelqu'un qui faisait de la photo, alors que moi je sortais un peu des beaux-arts à cette époque-là. Je faisais beaucoup de photographie à l'époque. Et donc j'étais intéressé par ta production d'images, en fait, que je connaissais déjà depuis quelques années. C'est un peu comme ça que ça a commencé, et c'est comme ça que tu m'as emmené aussi à la coopérative de Semences et Découvre, de fil en aiguille. Mais voilà, le point de départ, c'était... C'était toi qui produisais des images avec que j'avais vu en projection diapo, voilà. Donc, voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire du cinéma. Et donc voilà, donc ce film a mis du temps à se produire, et toi aussi à cette époque-là, tu as commencé à filmer aussi, tu t'es acheté une petite caméra, tu as commencé à filmer de ton côté. Donc on a fait une expo, voilà, moi j'ai fait un film qui a été montré dans un contexte d'un contemporain qui a circulé, qu'on a montré à la coopérative, dans les projections familiales, mais aussi dans les foyers. Moi, je me suis intéressé à ta production d'images aussi parce que ce qui m'intéressait justement, c'était aussi la question du mode de circulation, en fait. Moi, qui venais de l'art contemporain, on montrait ces photos ou son travail dans des lieux d'exposition dédiés à cela, quoi. Alors que toi, tu avais un rapport, ces images circulaient de main en main dans un réseau de relations de gens qui étaient de proche en proche, quoi, mais à la fois avec des Français, avec des Français d'origine africaine, avec des Africains, mais du coup il y avait un autre mode de circulation de tes images que j'ai vu assez tôt. Tu faisais des projections de diapos, c'est un peu ce que les gens faisaient dans les années 80, mais toi c'est comme ça que moi j'ai vu tes premières photos, c'est qu'en fait c'était des diaporamas, mais qui n'étaient pas seulement des diaporamas de vacances, c'était à la fois une invitation au voyage. Chaque mois, je prenais ça comme une espèce d'exotisme, je sais pas comment le dire autrement. Enfin, en tout cas, c'était l'image d'un continent que je connaissais pas. Et puis en même temps, il y avait tout de suite ton histoire de la coopérative qui était déjà là, et l'histoire des luttes aussi des travailleurs immigrés et des sans-papiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc il y a eu ce premier film avec comme point de départ la production d'images de Booba, et toi qui t'es mis à faire des vidéos, et après le début aussi d'une suite, quoi, de la vie du film qui du coup nous a emmenés dans différents lieux dans les campagnes en France. Je crois que ce dont tu n'as pas parlé, en fait, ce qui est quelque chose d'assez important dans votre parcours, hein, c'est le...
La formation agricole.
Oui, c'est ça, c'est la formation agricole. Donc vous êtes formé auprès de... Enfin, comment dire, vous avez fait le choix, au moment où vous avez décidé votre retour après la sécheresse dans le Sahel de 73-74, qui a occasionné aussi des famines. Et votre analyse, c'était de dire que cette famine, en fait, c'était si je ne me trompe pas, que c'était une des conséquences, en fait, des relations néocoloniales entre la France et l'Afrique, enfin, en tout cas, des anciens colonisateurs et des pays colonisés, et que du coup, une des choses à essayer de mettre en place, c'était de changer les modes de collaboration entre la France et l'Afrique, en l'occurrence, ou l'Europe, les pays colonisés et l'Afrique. Mais du coup, donc, vous avez décidé de faire un retour, d'essayer de faire une proposition agricole, et pour ça, vous avez fait des stages agricoles en France, à une époque où, en fait, c'était le grand remembrement, enfin, le grand remembrement était déjà passé, donc en fait, c'était le moment où les paysans français devenaient ouvriers agricoles, enfin, étaient précarisés, du coup, commençaient à s'endetter pour acheter des machineries, à la fois des engrais, à la fois des outils agricoles, etc. Et donc, vous avez fait cette expérience, c'était des stages agricoles, c'est une formation, Et en 76, il y a eu une sécheresse aussi en France. Donc vous avez aussi observé les Français, les autorités en France se débattre dans cette situation-là. Donc je voulais aussi évoquer ça pour dire que dans l'histoire que moi j'ai regardée à travers tes archives, à travers tes photos, à travers mon film et puis plus récemment à travers ce qui a fait la suite de notre collaboration, c'était aussi du coup d'aller regarder un peu plus précisément en fait toutes ces différentes toutes ces choses dont tu m'avais transmis et que j'avais dont je prenais peut-être pas la mesure en fait. Donc pour moi ces dernières années et aussi le travail autour de ce livre, hein, ça a été un travail de recherche. Enfin, d'ailleurs ça a été entre autres ce livre a pu voir le jour aussi parce qu'il y a eu un contexte de recherche, enfin, un cadre et des financements qui ont permis aussi de produire ce livre et cette recherche. Et il y avait aussi pour moi le désir, en fait, le désir de publication au départ, il est venu du fait que quand j'avais fait ce film-là, en fait, j'avais l'impression que, enfin, je savais déjà que tes images en fait racontaient très bien l'histoire, qu'il n'y avait pas forcément besoin que, enfin, je me posais la question de pourquoi avoir mis mes images et pas les tiennes pour raconter cette histoire-là. Donc il y avait aussi, j'avais envie de faire une publication avec tes photographies. Donc le désir de livre, hein, c'est parti aussi de là, c'est parti aussi du désir de montrer tes photos. Du coup, ce qui a impliqué ces dernières années aussi de faire tout un travail un peu d'archivage, enfin, qu'on a passé pas mal de temps à... Moi, j'ai passé pas mal de temps à scanner tes images, puis après, on a beaucoup travaillé sur la question des légendes aussi, de ces photos. Et de fil en aiguille, il y a aussi beaucoup de films, justement des films dans lesquels tu as joué, qui sont apparus, qui n'étaient pas digitalisés quand on avait commencé à travailler. Donc toi, tu as revu des choses que tu n'as pas vues depuis très longtemps, dont les films de Sidney Sorona. Donc on a montré d'ailleurs ici en 2014, on a commencé à avoir toute une généalogie, enfin en tout cas où des films qui étaient en relation directe ou un peu moins directe avec une espèce d'écosystème de production d'images qui était autour de votre histoire, de la fondation de la coopérative. Voilà. Après, je pense que je vais présenter assez brièvement peut-être le contenu du livre.
Je voulais juste peut-être que Bouba revienne sur la question de la formation paysanne ici en France, que je pense qu'il y a un bout de l'histoire qui est quand même quelque chose.
Ouais, absolument, parce que j'ai complètement oublié je suis parti directement en arrivant là-bas en Afrique. Effectivement, nous, comme je disais, nous on habitait au foyer et bien qu'on est d'origine paysanne. Moi, en 65 et avant 76, je ne connaissais rien du tout de le monde rural. Bon, donc, quand le projet a mûri, quand on a décidé vraiment de partir, on s'est réunis, heureusement, on a dit que ce serait hasardeux de partir directement comme ça, et sans connaître le monde rural ici. Alors, donc, nous, on n'avait aucun contact avec le monde rural. Nous sommes allés au ministère de l'Agriculture et pour nous demander des associations paysannes et certainement qui peuvent nous aider à trouver ce qu'on appelait nous maîtres du stage, aller chez eux là-bas pendant 6 mois. Heureusement que nous avons fait ça. Donc nous on pensait vraiment au sud de la France qui est un peu climat même, bon, un peu qui ressemble un peu au nôtre, mais bien que même s'il pleut un peu plus que chez nous, bon, et quand même. Mais malheureusement ou heureusement, c'est à l'est de la France, une association qui s'appelle AXIR et qui nous a. La dame, bon, elle a reçu la lettre, il y avait la secrétaire, mais qui était amoureuse de l'Afrique, mais à fond, quoi. Quand elle a reçu la lettre, immédiatement, moi j'étais à l'époque. Il n'y avait pas de portable. Bon, comme moi, j'ai travaillé au cinéma, j'avais un fixe. Et enfin, le fixe du cinéma, hein. C'était pas mon fixe. Donc, elle a appelé immédiatement et pour avoir. Elle m'a donné son numéro, moi, après le travail. Maintenant, je l'ai appelé, je lui ai expliqué notre projet. Et immédiatement, elle m'a demandé des camarades de quand est-ce qu'ils peuvent venir nous voir. Ils ont formé une délégation, ils étaient à Châlons-sur-Marne. À l'époque, on disait Châlons-sur-Marne, maintenant, on dit Châlons-en-Champagne. Bon. Moi, j'ai eu du mal, moi. Moi, j'ai dit Châlons-sur-Marne, je voulais y aller là-bas. J'étais à la gare. J'ai dit Châlons-sur-Marne, la dame qui était là, il dit Châlons-sur-Marne, ça n'existe pas. Et puis après, l'autre qui est à côté, il dit Châlons-en-Champagne. Bon, voilà. C'était Châlons-en-Sur-Marne à l'époque, comme ça on appelait. Bon, donc, ils ont fait une délégation, ils sont venus nous voir. Et donc, on leur a expliqué notre projet. Ben, ils ont été tous d'accord, ils ont trouvé 14 familles chez lesquels nous avons passé les 6 mois de stage. On a commencé au mois de mai, hein, nous avons fini au mois de novembre. Donc, après maintenant, pour une simple raison, heureusement que nous avons fait ces stages, c'est là où on a pris conscience que dans la paysannerie, il n'y a pas samedi, dimanche, il n'y a pas le week-end. Oui, parce que bon, moi j'ai travaillé, c'est vrai que quand je suis venu en France, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé jusqu'à dimanche, parfois avant 68, jusqu'à dimanche à midi. Et j'avais 15 minutes pour manger. À un moment, j'ai connu ça à l'usine. Mais bon, après 68, il y a eu quand même quelques améliorations, mais au moins on avait des week-ends. Donc dans le monde paysan, pas le week-end. Et quand on a fait des 6 mois, ça nous a vraiment formés, justement, à prendre conscience que quand on va arriver, eh bien, on ne va pas dire, tiens, aujourd'hui, c'est samedi, on se repose. Non. Donc, quand il y a du travail à faire, on le fait. Le but principal de ces stages-là, c'est à ce niveau-là, quoi, pour nous aider à prendre conscience de l'exigence de la terre. Voilà.
Je voulais te poser une question comme ça, c'est que du coup, vous vous retrouvez à Châlons-en-Champagne, on va dire. Et du coup, vous êtes 14 comme ça, on va dire sénégalais, mauritaniens, maliens, qui arrivent à Châlons-en-Champagne, dans 14 familles.
Dans différentes familles.
Familles françaises. Et comment ça se passe?
Alors, quand on est arrivé.
Parce que bon, on imagine quand même l'époque.
Oui, absolument. Ah oui, ça c'est vraiment. Il y avait une surprise. Bon.
Ils vous voient arriver.
On s'attendait quand même les difficultés. Un exemple. Moi, j'étais dans un village où j'avais jamais vu un noir. Bon. Mais comme il y a un moment que j'étais en France, et moi, rien ne m'étonnait. Alors, il y a des. Ben oui, il y a des gosses qui venaient, qui me prenaient les cheveux, qui regardaient si ça va partir ou pas. Bon, ben, toujours est-il que. Après, il y en a aussi qui disent oh, quelle dent blanche qu'il a. Ben bon. Alors, bon, voilà, les restes sont noirs, mais les dents sont blanches. Alors, bon, donc. Mais toujours est-il qu'il y avait énormément de. Mais pour moi, c'est simplement parce qu'on ne se connaissait pas. Voilà. On ne se connaissait pas, il y avait exactement ta question, c'était, il y avait une surprise à tous les niveaux. On avait aussi des maîtres de stage qui nous ont pris, hein, qui ont engagé un de nous. Ce n'est pas pour apprendre, ce n'est pas pour regarder, non, mais c'est simplement pour travailler. Travailler, c'est tout. On dit comme ça, travailler comme un nègre, tu vois. Bon, mais bon. Évidemment, ça posait certains problèmes, mais petit à petit, après, ils ont reçu quand même, parce que parmi nous, on était tous un peu, entre guillemets, politiques. Nous sommes les 68ards, donc on avait une prise de conscience sociale quand même. Alors du coup, ça a facilité un peu. Alors parmi nous, ceux qui n'ont pas vécu même situation que moi, évidemment, ça posait. Mais tous ceux qui ont vécu comme nous, ça c'est vraiment... La raison pour moi, le village où j'étais, tous les jeunes sont passés dans mon village. Tous, ils sont tous venus à ce moment qu'ils croient. Moi, mes maîtres des sages, bien, ils étaient âgés, mais ils étaient les premiers à venir nous visiter pendant qu'on était en plein travaux. On n'avait même pas de cases.
Il y a même une archive que Raphaël m'a montrée, ou dans des archives, je sais pas, c'est pas du 16, c'est du 8 mm, ou je sais pas, Super 8. On voit des archives du tout début de la coopérative, sont filmées par les gens qui vous avaient accueilli.
C'est la fille de la famille chez qui j'étais. Voilà.
Venu vous rendre visite au début de la coopérative.
Absolument, oui. Alors, ça veut dire que, bon, donc, les rapports, évidemment, il y avait des... Mais ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé après.
Donc ils vous ont formé et ils sont venus voir ce que vous avez fait de votre formation.
Absolument. Ah oui, mais jusqu'à présent, nous avons des contacts avec eux. Moi, tous les ans, j'ai rendu visite même mes maîtres de stage, m'ont fait les familles, les messieurs et dames qui étaient là à l'époque, ils sont décédés. Mais les enfants sont là, j'ai des rapports avec eux. Et puis tous les ans, je passe les voir. Et puis tous les ans aussi, il y a Monique qui avait comment filmé. Tous les ans, elle vient nous voir à Somankidikoura, à Somankido au village. Donc ça veut dire que nous avons gardé des contacts. Et puis ceux qui sont vivants, ils sont assez âgés. Mais quand je pars, ils organisent toujours un déjeuner chez un d'eux. Et puis pour que je voie tout le monde. Ouais.
Et alors une autre chose qui est dans le livre, peut-être pour faire un pont vers le cinéma. Moi j'avais retenu cette phrase qui m'a servi à écrire « Comme je ne veux pas mourir, je marche avec le temps ». Tu racontes, et tu vas d'ailleurs avec Raphaël à Verdun, dans toute cette histoire-là. Verdun où ton grand-père, le Bouba précédent, est venu combattre pour la France.
Absolument. Mon grand-père, alors nous les Africains, encore une fois, la mort définitive n'existe pas. C'est pour ça que nous n'avons pas, avant l'arrivée des religions étrangères, c'est pour ça que moi, je suis resté animiste. Hein. Ça, c'est l'animisme. Alors, donc, pour nous, on part, on revient. On n'a pas de notion de l'enfer et paradis. Ça, c'est vraiment africain. Pour moi, alors, mon grand-père a fait 14-18. Et mon grand-père est décédé un an après, moi, je suis né. Alors, pour les... 45 jeunes, à l'époque, ils ont été ramassés, on dit comme ça, ramassés dans les villages. Dans mon village, dont mon grand-père. Et ils sont tous morts, sauf trois. Mais ils ne sont pas venus en bon état. Hein. Mon grand-père, lui, paraît-il que lui, il n'avait pas sa tête. Tu vois. Mais les restes, il y en avait qui n'avaient pas de jambes. Alors, ils étaient tous arrivés invalides. Alors, donc, et ces deux-là, moi, je me rappelle, hein, ils venaient voir ma grand-mère. Ils disaient toujours à ma grand-mère, « Ah, vraiment, tu te rappelles, avec les Allemands, on a fait ci, on a fait ça ?» Et tu te rappelles, alors, toi, tu as la chance, tu es parti, tu es revenu. Bon, nous aussi, on va partir, on va revenir. Mais vous savez, ça, c'est une histoire réelle. Hein. Mais quand on est parti à Verdun, mais pour moi, c'est comme un lieu que je connaissais. Moi, je ne sais pas, dans ma tête, c'est psychologique. Hein, hein, mais dans ma tête, bon, encore une histoire encore vraie. J'ai rencontré un gars qui avait fait 14-18 en 1969, 70 comme ça. J'ai rencontré un jeune à l'époque où bon, j'étais à la faculté de Vincennes. Et puis bon, mais on s'est connus pendant le... je faisais un mois de travail. Vous savez, quand moi j'étais seul ici en France, j'envoie l'argent à ma famille et tout. Donc un mois de vacances, pour moi, c'est trop. Quand j'ai un mois de vacances, j'irai travailler ailleurs. J'ai rencontré un jeune et qui avait un grand-père à Avalon. On est parti là-bas. Le monsieur, il était persuadé qu'il m'avait déjà vu. Vous vous rendez compte?
Non, mais il te dit justement, tu n'as pas vieilli, toi, alors que moi,
j'ai... Il n'a pas vieilli, toi. Mais moi, j'ai compris tout de suite. Il avait affaire avec mon grand-père. C'est mon grand-père qui... Bon, pour moi, oui. Non, mais ça fait rigoler à beaucoup de gens. Mais moi, quand je suis arrivé en France, quand je suis... Alors, une histoire encore. Un jour, on a rencontré un monsieur qui passait au bord du fleuve. Ma grand-mère l'a prié de venir manger à la maison. Il est venu, bref. Quand monsieur a fini à manger, il dit, « Ah, c'est ton fils, là, quand il sera grand, il va encore chez les Blancs. » Bon, et puis ma grand-mère a éclaté, a pleuré. Parce que pour tous ceux qui allaient chez les Blancs, c'est pour la guerre. Mais le messie a précisé, il dit non, cette fois-ci, ce n'est pas pour la guerre, il va partir tout seul. Vous vous rendez compte? C'est des trucs assez forts, quoi. Ouais, j'étais petit, hein. Mais je me rappelle ça tout le temps. Alors, quand je suis arrivé ici en France, je ne savais pas lire et écrire. Je n'avais jamais été à l'école. Mais pour moi, la France, ce n'est pas un pays inconnu. C'est comme si j'avais vécu. Bien que ce n'est pas la même condition. Mais pour moi, mon adaptation sociale et relationnelle avec des gens, ça a été très simple. C'était facile pour moi. Parce que moi, je dis, ces pays-là, je suis déjà venu. Et bien, je vais être là, même si je rencontre quelqu'un qui ne veut pas que je sois là. Mais bon, je serai toujours là, quoi. Voilà.
Ouais, du coup, pour rebondir sur tes réincarnations aussi, je pense que dans cette histoire-là, c'était pour du coup, plus dans la relation avec les recherches qu'on a menées ensemble et qui, du coup, que j'ai voulu m'amener de mon côté aussi sur la question justement des spectres ou des histoires passées. En fait, moi, je me suis aussi du coup intéressé à l'histoire, peut-être une certaine histoire de l'agriculture, enfin en tout cas des modes de relation des politiques agricoles et des projets de développement aussi qui ont vu le jour déjà à l'époque coloniale. Donc il y avait l'idéologie un peu de la mise en valeur des colonies qui est passée par des projets d'infrastructures. Donc tu évoquais tout à l'heure l'histoire de l'OMVS, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui était au départ un projet dessiné par les ingénieurs à l'époque coloniale, qui a vu le jour très tard dans les années 80. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que une partie de la recherche était aussi de, comme dirait, je ne sais plus qui citait, enfin en tout cas c'est chez Lachère parlait du pharmacone, enfin comment dire, les politiques de développement, c'est toujours, il y a toujours cette ambiguïté, ça peut être à la fois un remède mais ça peut être aussi un poison, donc et donc c'est évidemment autour de ton histoire de la coopérative, justement il y a toute cette histoire de changer les modes, enfin en gros de décoloniser aussi les politiques de développement et d'interroger les questions d'échelle aussi. Peut-être que je peux dire juste deux mots, puis après on peut montrer le film, peut-être juste pour vous dire ce qu'il y a dans le livre quand même. J'ai pas trop l'habitude de faire de présenter des livres, moi. Donc en fait, une des choses en fait qui parcourt le livre, c'est des entretiens avec une grande partie des membres fondateurs de la coopérative, donc parmi les 14, dont Bouba bien sûr, mais aussi Ousmane Sinaré, Batili Baroré, Siré Soumaré, Madi Koïta Niarate, Gundo Kamisoro Niarate, Ladji Nyangane, et j'oublie quelqu'un. Enfin voilà, donc c'est des entretiens que j'avais fait en 2007. C'était une façon un peu pour moi de rencontrer les membres fondateurs de la coopérative. Donc c'était des choses que j'avais pas utilisées pour mon premier film et qui du coup là, dans une forme de livre, faisait sens en fait. Donc voilà, donc j'ai tout ce travail de retranscription et puis après de travail éditorial qu'on a fait autour de ces entretiens. Évidemment, comme vous l'imaginez, il y a beaucoup d'iconographies en fait qui sont en fait les archives photographiques de Bouba Touré. Enfin une partie, c'est une sélection qu'on a choisie. J'ai fait des propositions que je t'ai soumises, Bouba, et puis on a discuté. Il y a eu des changements de maquette de dernière minute. Il y a eu tout un travail un peu de gestation comme ça du choix des images. Peut-être juste pour vous dire ce que vous regardez, parce que c'est un peu hypnotique. Et d'ailleurs, je vais arrêter parce que c'est presque un peu trop hypnotique à mon goût. Donc, c'est des images satellites qui sont rassemblées par Google. Ce que je trouvais intéressant dans cet usage de ces images-là, c'était de les mettre en relation avec des archives justement des infrastructures de développement comme les barrages. Ici, on a une archive en fait des autorités françaises qui, suite à la crise dans le Sahel, n'avaient pas vraiment réagi à l'époque, alors que les États-Unis avaient bien compris qu'en envoyant des ONG, on faisait du soft power. En fait, les Français, une des seules choses qu'ils ont trouvé à faire, c'était de en fait, de saupoudrer les nuages, de faire de l'insémination artificielle de nuages. Enfin, en tout cas, c'est une des archives que j'ai trouvées à l'INA. Et d'après les commentaires de ce conducteur d'avion, c'était vraiment expérimental. Enfin, il savait visiblement pas exactement ce qu'il faisait. Enfin, voilà. Donc, il y avait déjà des projets un peu de géo-ingénierie qui étaient tentés dans les années 70. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de superposer ça avec. Avec l'espèce de point de vue de Google. En fait, ce qui m'intéressait aussi dans cette possibilité de changer en fait les images satellites de Google, c'est qu'en fait on voit aussi s'animer un peu les différentes saisons. En fait, il y a la saison des pluies, enfin la région du, donc ça c'est le fleuve Sénégal, et dans cette région-là, enfin en tout cas dans la partie nord du fleuve. Il y a une saison sèche qui dure combien de temps, je sais pas, 8 mois, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, 7 mois, 8 mois.
6 mois.
Ouais, 6 mois. Et puis après, il y a une saison des pluies. Et donc là, on voit les changements de saison et on voit aussi les aménagements aussi des bords du fleuve, les jardins qui sont aménagés. Voilà. Ouais. Donc ensuite, dans le livre, il y a évidemment une introduction que j'ai écrite moi. Et je voulais aussi noter qu'il y a un texte de Romain Tiquet, qui est historien, qui n'est pas avec nous malheureusement, parce qu'il est basé à Berlin. Donc il a écrit un texte qui s'appelle « La plantation et la coopérative, économie coloniale de la coercition et agrarisme développementaliste postcolonial ». Donc en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était justement toutes ces questions de continuité en fait entre les politiques agricoles qui étaient mises en place sous les colonies et qui ont été perpétuées en fait après, non sans souci en fait. Donc lui en fait il fait un peu cette analyse des voilà de l'agrarisme en fait, qui était une des choses qui était très fort dans le socialisme africain et peut-être aussi dans certaines formes de maoïsme en fait. C'était une espèce de d'idéalisation en fait du paysan quoi, mais finalement sans vraiment travailler de proche en proche avec ces paysans. Enfin, c'est un peu comme on peut parler de l'idéalisation de l'ouvrier chez les communistes, enfin pas chez tous parce qu'il y avait aussi les paysans étaient aussi vus comme une force d'action par certains régimes communistes. Donc ça c'est le texte de Romain Tiquet qui parle de cette histoire-là, en fait, de cette espèce de choses qui perdurent en fait après les indépendances dans les politiques agraires. Ensuite, il y a un très beau texte de Tobias Ehring qui est historien du cinéma et programmateur de films, et qui a écrit un texte qui s'appelle Les choses et leur place. Sur la photographie sur la pratique de la photographie de Bouba Touré et sur comment parler de la place des choses quand on migre et quand on est dans une quand on doit se déplacer, quand on est forcé à se déplacer, qu'on est invité ou qu'on est dans une situation de migration. Ensuite, il y a un texte de l'anthropologue ou des anthropologues Aïssatou Mbodj Pouille et Jean-Philippe Dedieu qui fait en fait une espèce d'histoire d'archéologie en fait du groupe de Bouba Touré, donc l'ACTAF, l'association culturelle des travailleurs africains en France, qui se sont d'abord rencontrés en fait autour des luttes de décolonisation des colonies portugaises. Et qui fait un parallèle avec un autre groupe qui s'appelle Révolution Afrique, qui était d'obédience maoïste, trotskiste, avec une petite touche de maoïsme. dans l'application de la Révolution à l'époque. Et donc, en fait, c'est leur choix de faire le parallèle entre, entre l'ACTAF et ce groupe-là, parce qu'en fait, il y avait, à cette époque-là, il y avait énormément de groupes en fait, qui existaient, aussi bien à Paris que à Dakar. Il y avait aussi des groupes maoïstes à Dakar qui étaient très, très influents dans les milieux... immigré à Paris. La chanson que vous avez, que j'ai jouée avant de commencer, c'était par exemple une chanson de l'association des étudiants sénégalais en France, qui est une chanson qui s'appelle Sonacotra. Donc en fait, Aissatou et Jean-Philippe ont fait le choix de l'ACTAF et de la Révolution d'Afrique parce que les deux ont eu à un moment donné cette espèce de désir de mettre en place des choses aussi en Afrique. Enfin, ils avaient tous les deux, les deux groupes avaient fait l'analyse que c'était pas suffisant de faire de l'activisme ici, mais qu'il fallait repenser des modes de panafricanisme et qu'il fallait essayer de tenter des retours. Révolution Afrique voulait faire des retours, faire de la lutte armée, ça n'a pas vraiment marché. En ce terme, il y a eu quelques tentatives de retour au Sénégal, et puis les gens sont revenus, ou alors ont été emprisonnés, ou en tout cas, ça n'a pas marché. Quoi. Donc voilà, une espèce de parallèle entre deux formes de parcours qui parlent un peu d'une époque bien particulière. Ensuite, il y a des entretiens donc, avec Siné Sorona. Siné Sorona, donc, c'est ce réalisateur mauritanien. Donc il a fait deux films, le premier qui s'appelle Nationalité immigrée en 1976 et son deuxième qui s'appelle Safrana, le droit à la parole. Le premier, c'est un film qui retrace les luttes dans les grèves des foyers de 1970 à 1976. Et le deuxième, Safrana, c'est un film qui est en fait une fiction sur l'histoire de la coopérative, enfin sur l'histoire de la gestation du projet de coopérative. Voilà, donc il y a deux entretiens, un qui était paru au Cahier du Cinéma, dans les Cahiers du Cinéma en février 1978, et un autre dans une revue qui s'appelait Cinémaction. Ensuite, il y a la pièce de théâtre Trana, qui veut dire migrant temporaire en soninkais, c'est ça, c'est un soninkais, hein, c'est pas un bambara. Ouais. Ensuite, il y a les traces de la. De l'adaptation de cette pièce par la troupe Kadouyarar, dont vous allez voir un autre projet qu'on a fait plus récemment en film. Enfin, il y a une conversation en fait, qu'on a eue ici aussi, une conversation qu'on a eue justement en 2014, donc ça date déjà, entre Olivier Marbeuf, Tobias Ehring, Karine Parot, qui travaillait au Gisti. Je l'ai invitée à la dernière minute, d'ailleurs, mais je ne crois pas qu'elle soit avec nous, malheureusement. Donc, on avait une discussion ici même avec Bouba Touré, autour de ces archives. Enfin, donc, il y a un très beau texte de M. Olivier Marbeuf, ici présent, qui reprend donc une phrase que dit Bouba dans une de ses vidéos, qui est « Comme je ne veux pas mourir, je marche avec le temps ». Peut-être si tu veux dire après un mot sur ça.
Il a raconté l'histoire de son grand-père, qui est vraiment une histoire, c'est déjà un film. Et il a raconté une chose qui se relie à peut-être beaucoup de cultures en général, et en particulier à des cultures et à des migrations, c'est qu'on porte les noms de nos grands-pères. Moi, c'est mon cas aussi. Et donc, on est le nouveau grand-père, mais de manière très objectif. Et quand j'ai lu cette histoire-là, moi, j'ai eu envie d'écrire sur cette question-là et sur la question aussi de, peut-être métaphoriquement, comment le cinéma, en racontant sans cesse des histoires, est une manière de ne pas mourir aussi, comme de donner les noms aux descendants. En tout cas, ce rapport au temps auquel moi, je trouvais, auquel j'étais assez sensible, et surtout au rapport au travail aussi de Raphaël, qui est un cinéma qui utilise des archives. Et c'est-à-dire c'est un cinéma qui fait des choses nouvelles avec l'humus des sols anciens. Donc je trouvais qu'il y avait une espèce de rapport entre porter le nom de ceux qui sont morts, imaginer un sol qu'on peut cultiver
de manière nouvelle avec des sols anciens et imaginer un cinéma fait avec des images d'avant. En tout cas, toute une espèce d'idée de comment la coopérative pourrait nous inspirer dans des manières de faire aussi nos métiers culturels, quoi. Comment essayer de penser que ce qui est important, ce n'est pas l'absolue nouveauté, mais la manière de cultiver ce qui nous a précédés.
Je voulais juste partager avec vous une image pour introduire le film qu'on va voir après. En fait, donc ça, c'était ces espèces de voyage de recherche en fait qu'on a fait. C'était en février dernier, donc près du lac Rose, donc qui est un lac salé près de Dakar, dans lequel nous sommes allés avec donc Bouba Touré, moi-même et une compagnie de théâtre donc qui fait qui s'appelle Kadou Yarar, qui est basée dans le village Le Bou de Yarar, donc au cœur de Dakar, près de la zone portuaire. Donc on est allé là-bas et pour essayer de trouver en fait un endroit où on pourrait trouver un peu des conditions similaires qu'au bord du fleuve Sénégal. C'est un endroit où il y aurait des problèmes de désertification, où il y aurait des situations similaires. Donc ça a été proposé par les acteurs. Donc là, en fait, ici, par exemple, sur cette photo, on voit les acteurs, on voit Bouba aussi, on voit des éleveurs peules. Il y a une photo avant, mais je n'arrive pas là. Tac, voilà. En fait, c'est juste pour vous indiquer un peu ce qui se passe dans ce coin-là. Donc là, ce qui se passe sur cette image, pour faire plus simple. Donc là, vous voyez, il y a un troupeau. Qui est venu ici avec des jeunes éleveurs en fait et les jeunes éleveurs ont reçu quelques pièces de paysans qui avaient des champs de, alors je sais pas ce que c'est une espèce de racine blanche et donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre les groupes qui habitent ce lieu, donc entre les paysans qui rémunèrent en fait les éleveurs pour venir en fait faire la récolte en échange duquel en fait les bêtes peuvent manger les restes des navets qui sont là. C'est ce que je trouvais aussi intéressant sur cette image. Si c'est le, vous voyez la présence des coquillages en fait, et ces coquillages en fait sont là pour atténuer en fait la chaleur dans le sol. En fait, ça réverbe la chaleur ne reste pas en fait, rebondit sur le sol. Donc voilà, je trouve ça intéressant dans le type d'écosystème qui est proposé ici entre différentes populations qui habitent ce terrain. Donc là, on est entre la mer, ce lac salé, et on est dans une zone où en fait des gens de différents pays de la région viennent travailler comme ouvriers agricoles pour des propriétaires du village à côté, j'imagine. Donc ici c'était des choux et des gens qui venaient de la Guinée en fait qui étaient là. Donc c'est dans cet espace-là qu'on a fait des improvisations et qu'on a en trop développé la pièce de théâtre que vous allez, enfin du film que vous allez voir.